VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, mardi 11 décembre 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, présidentiel en RDC, le candidat Martin Fayoulou dit avoir été empêché de tenir un meeting à Lubumbashi. Visite de la ministre française de la Défense en RCA, Florence Parly a remis 1400 fusils aux forces centrafricaines. Au Sénégal, le recours de l'opposant et ancien maire de Dakar, Ali Fassal, sera examiné le 20 décembre par la Cour suprême. Et en Grande-Bretagne, la première ministre britannique tente d'obtenir de ses partenaires européens des assurances sur le Brexit. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou a affirmé qu'il avait été empêché de tenir une réunion électorale à Lubumbashi à 12 jours des élections prévues le 23 décembre. Le point avec Lionel Gaïma.
Martin Fayoulou a accusé sur Twitter la police d'avoir tiré des balles réelles pour disperser des centaines de personnes avant son arrivée à Lubumbashi. Ses partisans ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et par des jets d'eau près de l'aéroport de Lubumbashi. Aucun bilan n'est disponible du côté de la police. Un des principaux soutiens de Martin Fayoulou est l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, actuellement en exil. Lubumbashi est aussi le fief du président sortant Joseph Kabila. Le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Shadary a commencé sa campagne le 26 novembre. Dimanche, Martin Fayoulou a affirmé qu'il n'avait pas pu se rendre à Kindu en raison d'affrontements entre ses partisans et des personnes se réclamant de la majorité. Kindu est le chef-lieu du Maniema, d'où est originaire le candidat de la coalition au pouvoir. Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front commun, est aujourd'hui à Isiro, dans le nord-est du pays, alors que Félix Tshisekedi, l'autre poids lourd de l'opposition, bat campagne à Kisangani.
Et dans l'est de la RDC, 10 civils ont été tués la nuit passée dans la région de Beni. L'attaque a été attribuée aux ADF, groupe armé d'origine ougandaise. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission. Restez à l'écoute. RDC toujours, les enfants représentent plus d'un tiers des cas d'Ebola dans l'épidémie frappant l'est du pays, selon l'UNICEF, qui a affirmé avoir identifié plus de 400 enfants orphelins ou isolés à cause du virus. Au Sénégal, la justice va examiner le 20 décembre le pourvoi en cassation introduit par Ali Fassal, l'ex-maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. L'opposant, toujours en prison, est aussi candidat à la présidentielle du 24 février. Le point avec Idriss Fall.
Selon son avocat, maître Mohamed Seydou Diagne, l'audience de la Cour suprême est fixée au 20 décembre. Si la plus haute juridiction confirme la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Dakar, Khalifa Sall ne pourra pas se présenter à la présidentielle de février. D'ailleurs, le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 24 février a débuté ce mardi et va durer jusqu'au 26 décembre. Monsieur Sall, en détention depuis mars 2017, a déposé mardi la caution de 30 millions de francs CFA exigée à tous les candidats en attendant la décision cruciale de la Cour suprême. Élu maire de Dakar en 2009 et réélu en 2014, Khalifa Sall affirme que les poursuites à son encontre sont de nature politique, ce que démentent les responsables de la majorité. Il a été élu député en juillet 2017 alors qu'il était en détention provisoire à la prison de Rebus, au lendemain de sa condamnation en appel le 30 août à 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics. Le président Macky Sall l'avait révoqué de ses fonctions de maire où il a été remplacé fin septembre par Soham El Ouardini.
La France a remis 1400 fusils d'assaut aux forces armées centrafricaines, réaffirmant, face à l'influence croissante de la Russie, son soutien à la Centrafrique. La ministre française des armées a bouclé ce mardi une courte visite de 48 heures à Bangui. On fait le point avec Yacouba Ouédraogo.
La ministre française des armées, Florence Parly, a remis ses fusils, des kalachnikovs de type AK-47 et des armes légères lors d'une cérémonie à Bangui. Ce stock de Kalachnikov, cédé gratuitement, a été saisi en 2016 près du Yémen. La France a obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU sur les livraisons d'armes à la Centrafrique. D'après Mme Parly, son pays est favorable à la levée de l'embargo sous certaines conditions.
Donc ce qui est important, c'est que ces armes, dès lors qu'elles seront livrées aux forces armées centrafricaines, puissent être identifiées, qu'elles puissent être stockées et qu'elles puissent être tracées.
En janvier, la Russie a livré 1700 Kalachnikovs au FACA. Madame Parly souhaite que toute aide à Bangui se fasse dans le respect des initiatives internationales de paix dans ce pays.
Il est important que cette contribution puisse s'inscrire dans l'initiative africaine de paix qui est soutenue par l'Union africaine.
Son homologue centrafricaine, Marie-Noël Koyara, a rappelé que les 1600 km de frontières doivent être sécurisés alors que l'armée peu équipée peine à prendre pied dans un pays toujours en proie à des violences intercommunautaires.
Au Gabon, des grèves sont en cours dans divers secteurs pour protester contre des mesures d'austérité prises il y a 6 mois et l'absence d'interlocuteurs, le président Ali Bongo Ondimba étant en convalescence depuis le 24 octobre à la suite d'un AVC. Le mouvement exige en outre la démission de la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boranso, qui, en l'absence du chef de l'État, a modifié la constitution mi-novembre pour permettre au vice-président d'organiser un conseil des ministres. Le mouvement est assez peu suivi, dont les administrations, les douanes, les transports ou encore l'enseignement d'après l'AFP, mais la Confédération syndicale dynamique unitaire évalue la mobilisation à plus de 60% sur tout le territoire. Cette grève générale nationale de 3 jours a été lancée hier. Une marche est prévue mardi 18 décembre. Somalie, une motion de censure controversée déposée dimanche soir par des députés contre le président Mohamed Abdoulaye Mohamed a été abandonnée faute de soutien, c'est ce qu'a annoncé le Parlement. 92 parlementaires accusaient le président d'avoir violé la Constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers, en l'occurrence l'Éthiopie et l'Érythrée. Conférence intergouvernementale des Nations Unies sur le pacte mondial sur les migrations à Marrakech. Une 60aine de représentants ont repris ce matin leur plaidoyer en faveur de ce texte qui a suscité l'opposition virulente des nationalistes et des partisans de la fermeture des frontières. Non contraignant, ce pacte recense des principes, défense des droits de l'homme, reconnaissance de la souveraineté nationale et liste des propositions pour aider les pays à faire face aux migrations. Il préconise d'interdire les détentions arbitraires, autorisant les arrestations qu'en dernier recours. Le sort du chef de l'ONU-SIDA, le Malien Michel Sidi Bé, était en jeu aujourd'hui. Le comité de direction de l'agence se réunissait à Genève au lendemain de la publication d'un rapport sur sa gestion d'une plainte interne pour agression sexuelle à l'encontre d'un ancien chef adjoint de l'agence. Un rapport d'enquête publié la semaine dernière indique que les dirigeants, les politiques et les processus au sein de l'ONU-SIDA n'ont pas réussi à prévenir les allégations de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, d'intimidation et d'abus de pouvoir à l'ONU-SIDA, ni à répondre correctement, ont pointé les experts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, Theresa May, la première ministre britannique, tente d'obtenir de ses partenaires européens des assurances sur le Brexit et notamment sur la solution pour l'Irlande. Les pays européens s'opposent à toute idée de renégocier l'accord pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. John Lindon fait le point.
Il n'est pas envisageable de renégocier l'accord des divorces, répète depuis hier le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Theresa May a prévu de les rencontrer séparément à Bruxelles pour tenter de leur arracher de nouvelles concessions. Auparavant, elle s'est rendue à La Haye et Berlin. Elle veut des assurances juridiques supplémentaires qui soient contraignantes afin que le Royaume-Uni ne soit pas pris au piège dans le filet de sécurité irlandais, a expliqué mardi le secrétaire d'État britannique pour le Brexit, Martin Callanan. La question est au cœur des préoccupations de nombreux députés à la Chambre des communes. Lundi, quasiment assuré d'essuyer un cuisant échec devant les députés britanniques, Theresa May a préféré reporter sans donner de nouveau calendrier le vote qui était prévu ce mardi au Parlement sur l'accord pour un divorce à l'amiable avec Bruxelles. Face à ces difficultés survenues à la dernière heure, Donald Tusk a convoqué jeudi un autre sommet européen à Bruxelles.
Proche-Orient, un Palestinien a été tué par des tirs des forces israéliennes près de Hébron, en Cisjordanie occupée, au cours de ce que la police israélienne a présenté comme une attaque à la voiture bélier dans la localité d'Idna. Au Yémen, le gouvernement et les rebelles, réunis en Suède pour des consultations sous l'égide de l'ONU en vue de renouer un dialogue rompu depuis 2016, ont annoncé avoir établi une liste de 15 000 prisonniers à échanger. Le gouvernement du président Abrabo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie Saoudite, et les rebelles houthis, appuyés par l'Iran, ont engagé la semaine dernière, sous la pression de la communauté internationale, alarmée par l'urgence humanitaire, des discussions d'abord destinées à recréer un minimum de confiance mutuelle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La production industrielle d'or en Côte d'Ivoire est passée de 7 tonnes en 2009 à 25 395 tonnes à fin 2017, soit une hausse de 262%, a révélé lundi à Abidjan le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, cité par l'agence APA. M. Duncan s'exprimait dans un discours d'ouverture de la deuxième édition du forum et exposition de la CEDEAO sur les mines et le pétrole. Quant à la production de manganèse, elle a été de 510 000 tonnes à fin 2017 contre 207 000 tonnes en 2016, soit une hausse de 146%. Au titre du secteur des hydrocarbures, une nouvelle politique de promotion d'exportation en Côte d'Ivoire a été mise en œuvre depuis 2011, a-t-il ajouté. Satisfait de l'évolution du cadre macroéconomique, le Fonds monétaire international a autorisé hier, lors de son conseil d'administration, le décaissement d'une quatrième tranche de 34,9 millions de dollars en faveur du Togo. Une seule femme africaine figure sur le classement des 100 femmes les plus puissantes du monde en 2018, rendu public le 4 décembre par le magazine américain Forbes. Il s'agit de la présidente éthiopienne Saleh Worko Zewde, qui occupe la 97e place dans ce classement. Madame Zewde, âgée de 68 ans, a accédé à la magistrature suprême en octobre dernier après la démission du président Mulatu Teshome. Elle est devenue ainsi la quatrième chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995.
Voilà pour la Minute Éco avec Bagassi Koura. Plein feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le ton monte à J-1 de l'élection à la présidence de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football.
Soutien du candidat Seydou Mbombong Djoya, Samuel Eto'o est accusé d'avoir tenté de s'immiscer dans la campagne en essayant de déstabiliser les concurrents de son favori, dont l'ancien gardien de but Joseph-Antoine Bell, accusé d'avoir fait miroiter un poste de directeur technique national à Bell pour qu'il renonce à sa candidature. Eto'o s'est défendu en publiant ses conversations privées avec l'ancien lion indomptable sur les réseaux sociaux. L'attaquant du Qatar SC entendait ainsi démontrer que c'est Bell qui est venu vers lui pour négocier ce poste. Soutien de Bell, Roger Mila est alors sorti du bois pour recadrer Eto'o qui a vidé son sac à travers un long post publié sur son compte Facebook. L'ancien Barcelonais estime avoir été lâché par Bell et Mila lorsqu'il a essayé de redonner le pouvoir au footballeur en 2014.
En Europe, dénouement attendu ce soir dans le groupe C en Ligue des Champions.
Puis, trois clubs peuvent décrocher les deux tickets pour les huitièmes de finale dans le groupe dit de la mort. Naples du Sénégalais Kalidou Koulibaly, le PSG du Camerounais Maxime Choupo-Moting et Liverpool de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Paris sera qualifié en cas de victoire en Serbie. Si le PSG fait un match nul et si Liverpool bat Naples, les Reds seraient alors en tête de ce mini-championnat 3 où le résultat contre l'Étoile Rouge deviendrait anecdotique pour le PSG. Dans le groupe B, il ne reste qu'un billet à arracher entre Tottenham et l'Inter Milan, derrière l'intouchable FC Barcelone.
On connaît les demi-finalistes de la CAN Beach Soccer 2018.
Et oui, deuxième du groupe A, les Lions de l'Atlas feront face aux Lions de la Teranga, champion d'Afrique en titre. Avec trois victoires en autant de matchs de groupe, l'Égypte qui abrite le tournoi défiera le Nigeria. Les rencontres des demi-finales se jouent jeudi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Donc, la finale est prévue le 14 décembre. Les finalistes se qualifieront pour la Coupe du Monde de cette compétition, Paraguay 2019.
La belle histoire se termine déjà pour Yaya Touré.
Oui, alors qu'il avait privilégié le sportif à l'argent en revenant au sein de l'Olympiakos, l'international ivoirien vient d'arrêter son aventure avec le club grec. L'Olympiakos a annoncé la résiliation du contrat de Yaya Touré d'un commun accord. Âgé de 35 ans, le vétéran ivoirien n'aura disputé que 5 rencontres sous les couleurs d'un club qu'il avait déjà connu lors de la saison 2005-2006.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Cap sur la République démocratique du Congo. La tension monte à 10 jours de la clôture de la campagne électorale. Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, affirme que son meeting à Lubumbashi a été perturbé par des balles et des gaz lacrymogènes. La société civile accuse le gouvernement d'instrumentaliser les forces de l'ordre pour perturber les activités de l'opposition. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le candidat Martin Fayulu a vu son cortège dispersé par les forces de l'ordre à son arrivée à Lubumbashi. Le candidat de la coalition Lamuka dénonce cette situation et en appelle à l'arbitrage de la communauté internationale.
Lancer des gaz lacrymogènes, de l'eau chaude, aux paisibles citoyens pendant la période de la campagne. Et c'est pour cela que nous disons, et d'abord au Conseil de sécurité, j'interpelle tous ceux qui nous disent qu'il faut mettre un bémol sur la machine à voter. Vous avez compris? Et là, aujourd'hui, vous avez en live, vous avez la situation grandeur nature. On nous a empêchés d'aller à Kindu. Maintenant, nous sommes ici. Baba Kiyungu Okatanga a organisé un accueil ultra, je ne sais pas comment le qualifier. Ils ont été dépassés. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter pour que nous ne puissions pas continuer.
De son côté, le candidat du Front commun pour le Congo, Ramazani Shadari, qui a tenu un meeting ce mardi à Isiro dans la province du Bas-Uele, promet de faire le tour du Congo pour vendre son programme de campagne. Le candidat de la coalition au pouvoir appelle par ailleurs ses partisans au calme et à la tolérance après ce qui s'est passé à Kindu et à Lubumbashi.
Je ferai tout le Congo, du moins les chefs-lieux de province. Il faut que les gens soient tolérants. Il faut éviter les actes de vandalisme.
De son côté, Félix Tshisekedi a tenu un meeting mardi à Kisangani avant de retrouver Beni et Butembo au Nord Kivu, puis de mettre le cap sur l'ouest et le centre du pays. À la société civile, l'ONG ACAJ, Association Congolaise pour l'accès à la justice, condamne la perturbation des activités de l'opposition et accuse le gouvernement d'empêcher Fayulu de mener normalement sa campagne.
Effectivement, à 10 jours de la tenue des 3 scrutins, la situation qui s'est passée à Kindu a été mûrement décidée et payée, soutenue avec les moyens de l'État par les autorités provinciales. Et c'est la même situation qui vient de se passer aujourd'hui à Lubumbashi.
Les Kinois interrogés, eux, regrettent que l'opposition aille à ces élections en ordre dispersé.
C'est malheureux parce qu'on aurait voulu pour la démocratie qui est un candidat, un bloc opposition, et un autre, les pouvoirs. Et tel que ça se passe là, c'est du tralala. C'est du tralala épinglé des choses. C'est-à-dire, j'ai comme impression que l'opposition ne comprend pas ce qu'il fait. Parce que l'opposition a en face d'elle plutôt le pouvoir, avec un seul candidat. Mais l'opposition s'est fait la guerre. Autrement dit, je me dis, même enfin, à quel jeu il joue et comment ça va se terminer?
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pendant ce temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 10 civils ont été tués dans la région de Beni. L'attaque est attribuée aux rebelles ougandais des ADF, qui sont déjà tenus responsables de la mort de 15 casques bleus tanzaniens en décembre 2017, et 7 autres casques bleus malawites et tanzaniens le mois passé. Idriss Fall a fait le point avec Nikes Kibelwiloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
Oui, il y a eu effectivement attaque dans 3 villages au nord de la cité de Oicha. Tenambo, Mabasele, Mbimbi. L'attaque a fait 10 personnes tuées de façon cruelle, parce qu'on les a ligotées avant de les achever à la machette et à l'arme à feu.
Mais que fait l'armée et que font les casques bleus dans la région?
Au fait, fait, nous assistons dans la région à trois facteurs qui tournent autour de l'insécurité. Il y a d'abord les facteurs des fameux ADEF, et nous avons les facteurs dus à la maladie à virus Ebola qui crée aussi des décès, et puis nous avons la campagne électorale qui est aussi une source de tension. Et de ces trois facteurs, l'enjeu principal reste la population qui subit. Aussi, il faut ajouter à la population les soldats parce que les militaires sont là, confrontés à trois réalités différentes, mais qui conduisent toujours au front. Les trois réalités ont chacune une stratégie différente. Les ADF, nous l'avons dit, utilisent la guerre asymétrique. Et Ebola, c'est la maladie, il faut éviter les contacts. Et puis nous avons les tensions face à la campagne électorale. Donc les militaires, que ce soit les FARDC ou la MONUSCO, sont presque débordés par les trois facteurs d'insécurité.
Maintenant, dans ce contexte, comment se déroule donc la campagne?
Il y a un peu d'intolérance aussi, moins de violence. La campagne se déroule jusque-là très bien. Les candidats à la présidentielle étant déjà passés, maintenant ce sont des candidats à la députation qui font campagne, notamment avec des chansons, à travers des portes en porte. De façon générale, la campagne se déroule bien, en attendant la date fatidique.
Et vous pensez que cette date fatidique avec l'Ebola, avec les attaques des rebelles ADF, les gens pourront quand même aller voter?
Comme on n'est pas le prophète des malheurs, les gens iront voter. Peut-être qu'il n'y aura pas assez d'engouement. Je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il y aura des attaques le jour du vote, mais les gens iront voter d'une manière ou d'une autre. C'est à l'issue de ce vote qu'on décidera de ce qui pourra arriver. C'est vrai que dans certaines zones, il est difficile de battre campagne. Il y aura engouement autour des cités comme dans la ville de Beni, Oicha aussi, mais à la périphérie. Mais attendons voir comment le problème va se poser, comment ça sera résolu.
Nikeski Belbeloka, directeur du journal Les Coulisses à Beni.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La situation humanitaire se dégrade en Centrafrique. Les ONG internationales affirment qu'on empêche les humanitaires d'apporter de l'aide aux populations affectées. Correspondance de Freeman Sipila.
Les violences orchestrées par les groupes armés en novembre et début décembre 2018 dans certaines régions de la République centrafricaine ont contribué à la détérioration de la situation humanitaire. Dans les localités de Batangafo, Alindao et Ipi, on dénombre des dizaines de milliers de déplacés internes, des milliers de maisons incendiées et des milliers de personnes dans le besoin d'aide humanitaire d'urgence. Actuellement à Alindao et Ipi, les personnes affectées n'ont reçu aucune assistance, faute de humanitaire du fait des activités des hommes armés. Baptiste Ankar, coordonnateur du CCO, Comité de coordination des organisations non gouvernementales internationales.
Nous, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est laisser les humanitaires travailler entièrement. Faites savoir quand effectivement vous n'êtes pas satisfait, mais respectez strictement les principes humanitaires, garantissez l'accès aux populations vulnérables et dans le besoin, quelle qu'elle soit.
Face à cette situation, l'association des victimes et déplacés de la Basse-Côte, l'une des préfectures durement affectées, dénonce les graves violations des droits humains. Son coordonnateur Enoch Fortuné Binguidé interpelle le gouvernement et la MINUSCA.
Vous allez comprendre que depuis 2015, les enfants qui sont nés n'ont pas d'acte de naissance. Il n'y a pas de libre circulation. Vous voyez que depuis mai 2017, plus de 500 femmes et hommes ont été violés récemment à Lindao. Beaucoup de maisons et des écoles ont été détruites.
À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre, les organisations de défense des droits humains ont alerté les autorités sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Centrafrique. Maître Mathias Barthélémy Moruba est président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme.
La MINUSCA a un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce mandat robuste lui donne la possibilité de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui vont se mettre en marge de la loi. Or, ici, on a constaté qu'en présence de la MINUSCA, les populations civiles sont massacrées. La population est abandonnée. Alors, on ne comprend pas quel est finalement le rôle que joue la MINUSCA aujourd'hui en République centrafricaine. Nous sommes vraiment inquiets. On meurt. Ils ne sont pas là, on meurt.
Selon les Nations Unies, malgré la générosité des donateurs, le plan de réponse humanitaire 2018 pour la République centrafricaine d'un montant de 516,6 millions de dollars n'a été financé qu'à hauteur de 240,6 millions, a indiqué l'ONU. Freeman Sipila Bangui pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Tchad, la nouvelle loi adoptée par le Parlement pour réguler la presse écrite et les médias électroniques est une épée Damoclès sur la tête des journalistes. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel s'appuie sur cette loi pour mettre en garde les médias qui donnent la parole aux responsables de la rébellion dans le nord du pays. André Konmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Dans une mise au point, l'organe de régulation des médias a dit avoir constaté des propos déplacés ou des contenus copiés sur des sites à caractère subversif portant sur une possible guerre dans le nord du Tchad sans en apporter des preuves. Des informations tendant à faire l'apologie du terrorisme ou tout autre groupe qui cherche à s'attaquer à l'intégrité du territoire sont punies par l'article 90 de la dite ordonnance. Pour le vice-président de la Hama, Ali Dibrine, cette mise au point vise donc à éviter à la presse nationale de tomber sous le coup de cette loi.
C'est pas seulement les médias électroniques qui sont visés, mais tous les médias. Quand vous parlez d'une information, il faut la vérifier. Donc, c'est une manière de protéger les journalistes par rapport à la loi qui est très dure.
Et que dire de la réaction des journalistes qui qualifient cette ordonnance liberticide avant même son adoption? Pour Ali Dibrine, cette mesure vise plutôt à assainir le climat médiatique au Tchad. Oumar Yahya Hissen est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il explique qu'il n'est pas question de donner la parole aux rebelles.
Dès lors qu'on est illégal, on ne peut pas être une source fiable. S'il y a une opposition qui a son autorisation de fonctionner, c'est ça la source fiable. Mais quand vous cherchez des hors la loi pour les opposer à un gouvernement, à ce niveau, il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un qui est civil, qui prend une arme et qui s'oppose contre le gouvernement, pour nous, c'est un hors la loi et il faut les traiter comme tel.
Pour le directeur de publication du journal Le Pays, Majastra Nako, le gouvernement et la Hama ont tiré à côté.
Dans un contexte comme le nôtre, qui est aussi compliqué et difficile, la Hama aurait pu gagner, par exemple, à exhorter le gouvernement, qui dit depuis le début que rien ne se passe à Mishki, à organiser, par exemple, un voyage de presse pour que le journaliste dise, je suis allé à Miski, j'ai vu et rien ne se passe. Mais passer son temps à menacer et à mettre en garde une profession de journaliste, ce n'est pas une bonne option.
Le vice-président de l'ODEMET, Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad, un tribunal de pairs des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, Célestin Topona, estime que l'exécutif doit s'en prendre à lui-même puisqu'il n'a pas assez communiqué sur la situation dans le nord du Tchad.
La situation sécuritaire du pays interpelle tous les Tchadiens et les journalistes sont des acteurs essentiels pour véhiculer les informations concernant la situation globale du pays. Mais l'ODEMET a constaté qu'il n'y a pas une communication institutionnelle sur cette question-là. Moi, je pense que les autorités, en voulant appliquer les textes, puissent donner la vraie information, parce que tout le monde est allergique à la guerre.
Un autre projet de loi sur la régulation de la presse audiovisuelle est en ce moment sur la table de l'Assemblée nationale. Un projet qui en ajoute à l'inquiétude dans les milieux professionnels des journalistes. André Kodmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique, restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Josèle Morissin. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h24. Au revoir. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.